Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien qui traite les questions de la vie au quotidien. Fistule obstétricale, facteur de risque et comment se fait la prise en charge médicale. Nous en parlons avec Dr Wassilou Sengué-Lucien, il est directeur du programme des fistules de la RDC. Bonjour Dr Lusengué.
Bonjour Monsieur Tati.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Okapi. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission et Pierre Diassilnois s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce numéro d'Okapi Service. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La fistule obstétricale demeure un problème de santé publique en RDC. L'incidence de la fistule reste inconnue. On estime entre 5 000 et 7 000 cas de fistules obstétricales par an selon les Fonds des Nations Unies pour la population NFPI en sigle. Mais dans les contextes où l'accès aux services des soins obstétricaux d'urgence est faible, l'incidence pourrait par conséquent être plus élevée que selon les spécialistes. Quelles sont les causes des fistule obstétricale, comment se fait la prise en charge médicale en RDC? Nous en parlons avec Dr Wassilou Sengué-Lucien. Nous rappelons qu'il est le directeur du programme des fistules de la RDC. Docteur, nous allons commencer par le tout début. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par la fistule?
Par définition, la fistule, c'est une communication anormale entre deux épithéliums différents. Dans notre cas, on parle d'une fistule obstétricale parce que c'est une maladie qui arrive pendant l'accouchement. Alors, la communication se trouve entre la vessie et la cavité vaginale. À ce moment-là, on parle d'une fistule vésico-vaginale. Il peut y arriver qu'il y a une communication entre le rectum et la cavité vaginale. Ça, c'est une fistule recto-vaginale. Et notons qu'il y a plusieurs types de fistules, mais nous, on va se limiter seulement aux fistules obstétricales, donc les fistules qui arrivent pendant l'accouchement.
Est-ce que c'est une infirmité ou une maladie?
C'est juste une maladie qui arrive pendant un accouchement prolongé. Et il y a le fœtus pendant son passage, pendant l'accouchement, qui va créer des anomalies graves et qui va blesser la vessie et la cavité vaginale suite à une compression de la tête du fœtus qui va comprimer les tissus mous et qui va créer un trou entre la vessie et la cavité vaginale. Et il y aura une incontinence urinaire. Donc la femme ne sera pas à mesure de contrôler les urines, elle sera mouillée, elle sera obligée de porter les couches.
Ça c'est parmi les conséquences de la fistule. Exact. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les causes qui entraînent cette anomalie chez la femme?
Exactement. Donc la première cause, c'est un travail d'accouchement prolongé, suite soit à une malposition ou suite à une surveillance est suffisante, donc quand la femme sage ne surveille pas la femme en utilisant le partogramme, le travail sera prolongé qui va causer la fistule. Et ça peut être aussi pendant la césarienne. Donc pendant la césarienne, un médecin qui est en train d'opérer une femme et qui lèse la vessie par accident, bien sûr, et ça va créer la fistule. Ou ça peut être pendant une autre intervention, le plus souvent pendant l'hystérectomie, et ça peut causer aussi la fistule. Et aussi, il y a des moments où il y a le personnel soignant qui n'est pas bien qualifié, qui peut aussi occasionner la fistule. Donc, c'est un peu ça, de façon générale, les causes de la fistule. Mais il y a aussi d'autres fistules qu'on appelle des fistules traumatiques. Mm-hmm. Surtout en cas de conflit, de guerre, on utilise les outils pour créer la fistule. Donc ça, ce sont des fistules traumatiques.
Oui, docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de personnes affectées par, des femmes au fait, affectées par la fistule
en RDC, selon les rapports de UNFPA de 2020, on estime entre 5 000 et 7 000 personnes atteintes chaque année. Et aussi, selon d'autres rapports, il y a déjà 42 000 femmes déjà enregistrées en RDC, parce que ce sont des rapports que nous avons déjà, qui sont enregistrées et qui ne sont pas soignées. Alors si on ajoute à ce nombre-là, le nombre de nouveaux cas chaque année, donc c'est un problème très sérieux de la santé publique dans notre pays. Et il y a aussi d'autres estimations qui disent que sur les 1000 accouchements en République démocratique du Congo, il y a des cas de fistules qui sont occasionnés pendant les 1000 accouchements.
Et cette anomalie est constatée juste après l'accouchement ou cela peut survenir au bout de quelques mois après la délivrance de la femme?
En tout cas, c'est juste après l'accouchement, donc la toute première semaine après l'accouchement, il y a la femme qui va constater qu'elle n'est pas en mesure de contrôler ses urines. Il y a d'autres qui vont dire non, elles sont en train de voir les matières fécales dans la cavité vaginale, donc en cas d'une fistule recto-vaginale.
Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conséquences sociales de cette anomalie chez la femme?
Actuellement, parce qu'il y a un manque de communication, donc nous devons fournir beaucoup d'efforts dans le cadre de la sensibilisation, parce que la population ne comprend pas très bien la fistule obstétricale, parce que les gens pensent que c'est une malédiction ou juste des erreurs commises par ces femmes et puis elles doivent payer pour les sorts qu'on leur a jetés. Donc les gens passent plus à la sorcellerie que à la maladie, parce que c'est une maladie réelle, mais les gens ne comprennent pas comment une grande personne peut se mouiller avec des urines. Alors on passe plus à la sorcellerie que à la maladie.
Et c'est là les exposés, ils sont souvent l'objet des rejets sociaux, c'est ça?
Exactement, ces gens sont rejetés, stigmatisés. Et puis, rejeté même par le mari, les membres les plus proches de la famille, parce qu'ils ne comprennent pas cette maladie.
Fistule obstétricale, quels sont les facteurs de risque et comment se fait la prise en charge médicale? Nous en parlons dans cette première partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Okapi. Et docteur Lucien, parlez-nous un peu du programme que vous êtes en train de piloter dans le cadre de la prise en charge au fait médicale de la fistule obstétricale, parce que nous allons dans la deuxième partie de cette émission aller en détail sur l'accompagnement médical.
Actuellement, nous avons créé un programme depuis des ans dénommé Fistula Programme DRSI, donc FISPRO. C'est un programme qui y a comme vision de restaurer la dignité de la femme. Et puis notre mission, c'est de prévenir la fistule obstétricale, et la prise en charge gratuite de la fistule obstétricale, la formation du personnel soignant et puis la réinsertion sociale. Donc après la prise en charge médicale, on est obligé de réinsérer ces femmes parce que ce sont des femmes qui sont déjà rejetées par la communauté. Donc c'est épais ça, parce que nous travaillons dans deux provinces, la province du Nord Kivu, à l'est du pays, à Butembo précisément. Et nous travaillons ici à Kinshasa, au centre socio-médical Carmel, dans la commune de Lancélé. Et la prise en charge est gratuite. Nous recrutons les malades de toute la province de Kinshasa et ses environs. Et nous payons pour les transports et la restauration, donc la prise à charge, nous avons un paquet complet et on fait le triage d'abord pour sélectionner le vrai cas. Parce que il y a beaucoup de malades qui arrivent, mais nous devons d'abord faire un triage pour connaître les types de fistules. Mmh. Et puis, on fait un programme opératoire. Et chaque semaine, parce qu'actuellement on fait la routine, chaque semaine il y a toujours des interventions que nous faisons. Et après, la femme doit rester au centre hospitalier pendant des semaines avec une sonde vésicale que nous devons surveiller pour que la cicatrisation soit complète.
Oui, mais docteur Lucien, pourquoi avoir ciblé seulement Kinshasa et le Nord Kivu?
Nous ne sommes qu'au début parce que c'est un programme de la RDC, parce que d'ici là, comme on est en train de former le personnel soignant et on est en train d'élargir nos équipes, et d'ici là, on sera dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Docteur, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Donc, nous allons aller au standard pour donner la parole à la première vague des auditeurs. Fistule obstétricale, quels sont les facteurs de risque et comment se fait la prise en charge médicale? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Okapi. Nous commençons à Kinshasa. L'auditeur s'appelle Roger. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
S'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit ambiant là où vous êtes. Réduisez le volume de la radio, écoutez-nous au téléphone.
Ouais, maintenant ça va?
Oui, allez-y.
Ouais, mais cette fois-ci, je serai direct, je dois poser un peu de questions. Parce que malgré que je ne suis pas du domaine, l'invité vient de parler sur ce suivi. J'aimerais un peu poser à l'invité une question. Comment on peut vraiment savoir ou bien connaître la durée pour une femme? Parce que l'invité a parlé. Et ça pose un peu un problème lorsque la femme prend un peu de temps d'accoucher. Donc cette maladie-là, ça se manifeste après une semaine. Maintenant, moi, je dois savoir, l'invité doit nous parler vraiment, en donnant vraiment des précisions pour qu'on puisse se connaître. Parce que dernièrement, on a eu à parler sur des maladies tropicale, cette maladie aussi, ça paraît aussi à cette catégorie-là. C'est ça,
ma question. Ok, merci beaucoup, Roger. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Docteur Lucien, comment répondez-vous à Roger de Kinshasa?
Exactement, merci beaucoup pour la question. Sinon, la maladie apparaît juste après l'accouchement, donc la première semaine, donc le premier jour de l'accouchement ou le deuxième jour jusqu'au sixième jour, donc la femme peut être en mesure de, elle a l'incapacité de contrôler ses urines juste pendant la première semaine. Ça peut être juste le premier jour de l'accouchement. Merci.
Oui, mais il voulait aussi savoir, est-ce que la fistule fait partie, figure dans le paquet des maladies tropicales négligées?
Non. La fistule n'est pas encore parmi les maladies tropicales négligées. Donc c'est parmi les maladies qui sont les maladies qui existent, mais nous devons fournir beaucoup d'efforts pour sensibiliser la population parce que la fistule existe depuis longtemps, mais ce qui manque c'est seulement la sensibilisation.
Oui, et également aussi les coûts liés à l'intervention chirurgicale. Hein?
Exactement, l'intervention chirurgicale coûte et peu cher, mais grâce à la Fondation Fistule, l'intervention est gratuite ici avec notre programme.
Depuis que vous avez commencé, nous pouvons avoir une idée sur le nombre de patients que vous avez eu à guérir au fait de la fistule.
Depuis deux ans, nous avons opéré 342 patientes et parmi les 300, 229 sont de la ville de Butembo et ses environs. Et 113 sont de la ville province de Kinshasa et ses environs. Et le taux de réussite dans nos deux institutions était à 92%, parce qu'on venait de publier les données récemment et le taux de réussite est à 92%, qui est un résultat satisfaisant. Et nous sommes vraiment très contents de ces résultats, nous profitons pour féliciter toutes nos équipes sur terrain. Merci.
Docteur Lucien, dites-nous, est-ce que maintenant on peut avoir une idée sur comment s'est fait au fait la prise en charge médicale de la fistule?
Exactement, la prise en charge médicale, c'est à deux niveaux. Donc on commence par le triage, après le triage, on programme l'intervention. Et il y a certaines patientes qui ne nécessitent pas l'intervention chirurgicale, mais on utilise des produits spéciaux pour la prise en charge. Mais la plupart d'entre elles, elles nécessitent toujours l'intervention chirurgicale. Donc la prise en charge, la partie majeure de la prise en charge, elle est chirurgicale. Et la femme doit être opérée et rester au site pendant 14 à 21 jours.
Rester au repos dans les sites de 14 à 21 jours et au bout de 21 jours, elle peut quitter l'hôpital. Et quelle attitude adopter lorsque on vient de sortir de l'intervention chirurgicale de la fistule?
Pendant l'hospitalisation, on a un programme de réinsertion sociale. On apprend aux femmes de petits métiers, par exemple la confection des paniers. Et à la sortie, la femme doit respecter les différents rendez-vous et respecter aussi les restrictions qu'on donne à la sortie. Et après deux mois, la femme peut commencer une vie normale. Elle peut même accoucher, continuer à accoucher des enfants. Merci.
Et est-ce que les hommes, au fait, les époux de ces femmes-là, vous est arrivé de les interroger sur ce que cette anomalie entraîne dans leur vie du couple?
La majorité des femmes que nous soignons sont divorcées. Et puis la raison de ces divorces, c'est exactement la présence des urines dans la cavité vaginale ou la présence
ou la
de matière
fécale.
Et donc c'est le mari qui va directement quitter la femme ou la chasser à cause de la fistule. Alors la plupart des... Il y a un pourcentage très réduit des hommes qui accompagnent leurs femmes jusqu'à la prise en charge. Et après les traitements, c'est vraiment la joie. On sent vraiment la joie du mari et la joie de la femme.
Oui, docteur, nous retournons au standard. Hein, nous retournons au standard pour donner la parole à un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Fistule obstétricale, quels sont les facteurs de risque et comment s'est fait la prise en charge médicale? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons vivement les témoignages, surtout des femmes qui ont eu à subir l'intervention chirurgicale. Appelez-nous pour témoigner, ça va édifier les autres. Monsieur Mpiana, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Kapi. Je présente ici notre invité, docteur Lucien.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, moi, j'ai juste des bonnes petites questions. Je veux savoir quelles sont les causes, les causes qui causent la fistule. Donc, les causes des dégagements. Moi, j'ai une question à celle-ci. Pour une femme qui souffre de la fistule, est-ce qu'elle peut encore reconnaître la maladie? Donc, c'est ça, mon petit préoccupation.
Monsieur Mpiana, s'il vous plaît, est-ce que vous avez activé les haut-parleurs de votre téléphone?
Oui, oui.
Non.
Désactive
les haut-parleurs parce qu'on a de la peine à vous écouter. Désactivez les haut-parleurs. Parlez normalement. D'accord. Sur le téléphone. Voilà, c'est fait?
Oui, c'est fait. Maintenant, vous me captez 100%.
Ça s'est amélioré un tout petit peu. Vous avez les casques sur le téléphone?
Oui, j'ai les casques, oui.
Enlevez
oui.
Les casques. Voilà. Enlevez les casques, s'il vous plaît. On revient à vous. Le temps d'enlever les casques. On donne d'abord la parole au deuxième auditeur. Hein. Il s'appelle Pierrot. Il est également le Lubumbashi. Pierre, restez en ligne. Hein. On va vous donner la parole. Pierrot, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi et à l'invité.
Oui, Pierrot, à vous la parole, allez-y. On vous écoute.
Merci beaucoup. Nous sommes d'abord mis en confusion parce qu'on ne sait pas si c'est des fistules vésicales ou c'est le fistule... Si ce sont des fistules qui sont urinaires et utérines. Alors, moi j'avais des complications parce que en partant de, d'abord de la maternité, il y a ce que nous avons constaté lorsqu'on fait de déchirir. Quand on fait pendant l'accouchement, on veut élargir la voie vaginale pour que l'enfant sorte, l'enfant qui a une grosse tête. On nous dit que cette pratique-là avait des complications donc la complication qui était plus visible, c'était de fistule vésicale. Alors, nous nous demandons, est-ce que pourquoi ils prennent en charge seulement quand il y a une maladie, alors qu'il y a ce qui amène les femmes à faire ce fistule-là? Ça, c'était la première question. La deuxième question était de savoir comment ils ne pouvaient pas mettre dans leur programme la formation du personnel pendant qu'il est en train de soigner. Il y a ça qui complique. Alors, ce qui complique dans les soins, peut-être la personne n'est pas bien informée parce que la science est en train de s'améliorer. Alors, s'il y a des complications, pourquoi ils ne peuvent pas encore mettre de la formation à la disposition de tout personnel dans tout le pays, au lieu que de prendre cette prise en charge dans un contexte où il y a des viols, au moment où partout dans la République il y a cette maladie qui est en train de se voir partout. Je dis et je vous remercie.
Oui, Pierrot, dites-nous, vous faites partie du corps médical, vous êtes un personnel soignant?
Oh oui, je suis un personnel soignant, je travaille aussi dans la société civile santé. J'essaye d'aller trouver qui cherchait. Donc j'essaye de suivre. Nous suivons dans la société civile santé comment on prévient, comment on prend en charge. Est-ce qu'on respecte lorsque nous décelons ceux qui sont comme si ils ne respectent pas, nous partons crier auprès des autorités pour qu'on puisse respecter. C'est ça notre travail dans la société civile santé. C'est là que j'ai essayé de vous appeler dans ce
sens-là. Merci beaucoup, oui. Pierrot. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. J'espère que Mpiana a désactivé son téléphone. Léo parlait de son téléphone, mais également, malheureusement, il n'est plus en ligne. On va tenter de relancer monsieur Mpiana de Lubumbashi. Docteur Lucien, comment répondez-vous à Pierrot?
Merci beaucoup pour la parole. Sinon, à commencer par la toute première question qui parle des causes de la fistule obstétricale. Comme je l'ai bien dit, que la première cause, la cause majeure, c'est le travail d'accouchement prolongé. Et à part le travail d'accouchement prolongé, on peut avoir une fistule pendant la césarienne, donc une intervention pendant l'intervention, il y a le médecin qui va léser la vessie et causer une fistule obstétricale. Ou ça peut être pendant d'autres interventions gynécologiques, le plus souvent pendant l'hystérectomie, le médecin peut causer une fistule obstétricale.
Et là, vous voulez aussi que vous puissiez faire un éclairage sur les types de fistules, parce qu'il y a une certaine confusion entre la fistule vésicale et l'autre type de fistule.
Actuellement, il y a des fistules, il y a plusieurs types de fistules, comme je l'ai bien dit. Maintenant, ici, comme nous voulons juste expliquer aux auditeurs, on ne saura pas donner tous les détails avec les types de fistules, parce que il y a des fistules urétériques, les fistules vésico-utérines, vésico-cervicales, il y a des fistules vésico-vaginales. Donc les types de fistules risquent maintenant de créer une confusion parce que c'est un peu plus technique, mais pour le moment, nous voulons seulement expliquer la fistule vésico-vaginale et la fistule recto-vaginale. Mais la symptomatologie dans tous les types de fistules, la symptomatologie, la patiente ne saura pas contrôler ses urines. Elle sera mouillée des urines. Maintenant, des types là plus techniques, ça risque de donner une petite confusion à nos auditeurs.
Deuxième question de Pierrot était celle de savoir pourquoi est-ce que vous ne tenez pas compte de la formation du personnel soignant pour éviter en amont des cas de fistules.
Exactement. Actuellement, nous avons formé plus de 20 médecins à République démocratique du Congo. Nous avons formé aussi des infirmières et des sages-femmes parce que parmi et nos objectifs, il y a aussi la formation du personnel soignant. Et c'est dans le cadre de la prévention de la fistule obstétricale. Donc nous avons commencé et je pense bien que d'ici 5 ans, on pourra arriver à couvrir toute la République démocratique du Congo. Parce que actuellement, on est en train de collaborer avec UNFPA pour essayer de faire quelque chose dans le cadre de la formation. Il y a aussi la Fédération internationale des gynéco-obstétriques FIGO qui nous appuie dans le cadre de la formation. Alors nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour, parce que c'est très urgent, il faut former les gens et éradiquer cette maladie. Et aussi, Pierrot a parlé des déchirures du périnée qui peuvent causer une fistule recto-vaginale où la femme va sentir la présence de matière fécale au niveau de sa cavité vaginale, où elle ne saura même pas contrôler aussi les matières fécales ou les gaz. Donc la femme va se sentir incapable de contrôler les matières fécales, où elle va se sentir aussi ouverte. Là, il y a plusieurs types de déchirures du périnée. Il y a le premier degré, deuxième, troisième et quatrième. Et exactement, notre programme prend à charge les déchirures du périnée à part les fistules obstétricales.
Nous retournons au standard pour donner la parole à Maître Machaka. Il est à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à l'auditeur et à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bonjour.
Oui, j'avais d'abord une préoccupation. Et après qu'une femme puisse et subir connaître cet accident, et est-ce que il y a le temps ou bien qui est précis pour que la réparation ait lieu, ou bien c'est après n'importe combien de, après n'importe quel combien de temps que on peut intervenir? Puisque si je pose cette question, c'est parce que moi j'ai ma tante, ça fait plus de 20 ans qu'elle avait subi cet accident-là, mais jusqu'à présent, comme elle était aux campagnes, dans les campagnes, il n'y avait pas moyen d'intervenir. Est-ce qu'après une longue durée, est-ce qu'on peut encore intervenir pour de telles situations? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je voudrais demander à l'invité, dans leur programme, qu'est-ce qu'ils préconisent pour prévenir, puisque aujourd'hui, on ne peut pas seulement commencer à intervenir après les conséquences, mais les causes et quelles précautions qu'ils ont prises, surtout dans les campagnes. Pour moi, je proposerais à l'invité s'il pouvait commencer à faire les formations par zone de santé, et les zones de santé aussi s'en chargent dans d'autres structures sanitaires au fin fond du pays, puisque c'est là où il y a plusieurs cas de cette situation, monsieur Tati.
Merci beaucoup, maître Machaka. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. L'invité aura le temps de répondre à tes deux questions. Cette fois-ci, allons à Luena dans les Olomami pour donner la parole à Marcelin, à qui nous disons bonjour. Monsieur Marcelin, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe de la radio Kapi. Bonjour à l'équipe de la radio Kapi. Bonjour à l'invité et à tous les auditrices et auditeurs.
On vous écoute, monsieur Marcelin.
Merci beaucoup. J'ai tout droit aux questions. Je voudrais poser des questions à l'invité.
Oui, Marcelin.
La première question. Est-ce que la prostitution n'est pas l'une des causes de la fistule? Si vrai, laquelle?
Merci beaucoup. Après, c'est l'unique question que vous avez. Question.
Oui, la deuxième question.
Allez-y.
Oui, est-ce que réellement, parce que l'invité vient d'énumérer toute une panoplie de dames qui ne sont pas bien traitées, est-ce que ces dames-là ont encore la faveur de concevoir?
Merci beaucoup, monsieur Marcelin. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Luena que vous intervenez. Prochainement, dès que vous nous appelez, prenez soin d'éteindre la radio pour éviter les interférences pendant la communication. Merci beaucoup. Excellente journée à Luena. Docteur Lucien, comment répondez-vous à maître Machaka?
Ok, merci beaucoup pour toutes ces questions. Sinon, la fistule doit être soignée au moment du diagnostic. Donc, dès que vous avez un cas, il faut programmer ce cas pour l'intervention. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent avec la fistule pendant beaucoup d'années. Parce que récemment, on a opéré une dame qui a vécu 46 ans avec sa fistule. Donc, elle avait eu cette fistule dès le bas âge, donc la première grossesse. Et elle avait perdu aussi son enfant. Et pendant 46 ans, elle a vécu dans le bain des urines. Donc, elle portait des couches comme un bébé, elle s'est changée. Et maintenant, elle est sèche, elle est très très joyeuse, mais malheureusement après beaucoup d'états.
Oui, donc, mais maître a voulu savoir si cela a des conséquences sur le quotidien de la femme qui en souffre.
Exactement, elle souffre, mais à n'importe cas, on peut opérer la fistule. Dès qu'on fait le diagnostic, il faut programmer cette femme. Parce que, bon, techniquement, il y a d'autres fistules, surtout les fistules obstétricales qui arrive pendant un travail d'accouchement très prolongé. Là, il faut attendre une période de 3 mois pour permettre au tissu de se reconstituer avant de réparer. Mais au moment du diagnostic, il faut évaluer cette femme, faire le triage et la programmer pour une intervention. Mais une fistule après une césarienne ou une hystérectomie doit être réparée à l'immédiat.
Immédiatement.
Oui.
Ok. Et puis maintenant, sa deuxième question était celle de savoir quelles sont les précautions à prendre en amont pour éviter d'être victime de la fistule.
Exactement, c'est dans le cadre de la prévention et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, sensibiliser la population. Donc on doit travailler avec les médias pour sensibiliser la population, pour prévenir la fistule obstétricale. Et aussi on doit former le personnel soignant et on a commencé la toute première phase de la formation. Et nous pensons que d'ici là il y aura l'impact positif pour réduire le nombre de la fistule obstétricale. La question qui parle de la prostitution.
Oui, si la question de Marcelin, de Louina.
La réponse c'est non. Donc la prostitution n'est pas parmi les causes de la fistule obstétricale. La fistule on attrape la fistule pendant l'accouchement. Donc toute femme qui peut accoucher, elle peut être candidate ou victime de la fistule obstétricale.
Il y a Monsieur Godet qui nous appelle depuis la ville de Kikwit. Bonjour Godet.
Journaliste, vraiment l'émission est très impertinente. Nous venons de perdre la femme de mon petit frère ici à Bulungu après l'accouchement. Mais je voulais demander d'abord, vous voyez que la négligence se fait dans notre pays. Ils ont ciblé que des provinces, Butembo et Kinshasa. Vous voyez le mal. Et je ne sais pas, je peux demander à l'invité 3 ou 4 questions. Est-ce qu'on n'a pas prévu ça dans les matières à l'université, cette cours de fistule tropicale?
On n'a pas prévu ça dans les cours à l'université,
même à l'humanité. Deuxième préoccupation. Maintenant, est-ce que Après le traitement, est-ce que la femme peut encore mettre au monde, il peut avoir encore cette maladie-là après l'accouchement, deux à 3 reprises. Troisième préoccupation, est-ce que lorsque les mamans s'en aillent au centre pour faire donc les kilos, est-ce que les accouchés ne parlent pas pour éviter ça, il faut faire ça. Et après l'accouchement, est-ce que toutes les femmes doivent commencer à uriner dans des pots ou dans des combats médicaux, comment pour ne pas atteindre les maladies-là. Quatrième préoccupation, après, ou même avant l'accouchement-là, est-ce qu'il n'y a pas un signe qui peut montrer que la femme peut tomber subitement à cette maladie-là après l'accouchement? C'est Godet Guidon depuis la ville de Kikwit.
Merci beaucoup, M. Godet. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kikwit que vous intervenez. Docteur Lucien, comment répondez-vous aux 4 questions de M. Godet?
Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces questions, M. Godet. Sinon, la femme peut concevoir après la fistule. Donc, elle peut concevoir et accoucher. Et après la prise en charge de la fistule, la femme aussi peut concevoir. Donc, ce que nous faisons sont des précautions. Donc, une femme qui a été opérée de la fistule obstétricale, on essaie de la suivre dans notre centre, donc dans nos institutions à l'est comme ici à l'ouest. La CPN est gratuite, toujours prise en charge par notre programme. Et on programme une césarienne élective pour prévenir une fistule, parce que plus la femme a été traitée a été traitée pour une fistule, elle a plus le risque de développer une autre qui peut être maintenant très compliquée pour réparer. Alors, on a déjà un paquet pour la prise en charge gratuite après la réparation. Donc, toutes ces femmes peuvent passer pour la CPN parce qu'on donne toujours un programme, on donne un carnet de rendez-vous. Mmh. Elles viennent pour la consultation prénatale. Mmh. Et l'accouchement est toujours assisté par nos équipes.
Et au cours de ces CPN, il a voulu savoir, est-ce que les femmes sont sensibilisées sur cette infirmité?
Exactement, c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que maintenant on est en train de descendre des centres de santé pour sensibiliser les sages-femmes, les infirmières. Donc, le travail que nous avons maintenant, c'est la sensibilisation. On doit sensibiliser et le personnel soignant et toute la population.
Et les signes, est-ce qu'il y a les signes avant-coureurs, avant que la femme ne puisse accoucher?
Exactement, parce que quand la femme est en travail d'accouchement, il y a des heures. On se dit, elle doit accoucher avant 8 heures. Mmh. Elle ne doit pas dépasser, elle ne doit pas faire 2 jours. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent à la maison. Elle a des douleurs. Elle est en plein travail d'accouchement pendant 2 jours, 3 jours. Et quand elle arrive à l'hôpital, c'est déjà tard. Mm. La femme est décédée et puis elle a une fistule obstétricale. Donc la plupart des scénarios, ces femmes n'ont plus d'affaires parce que le travail était très prolongé. Mm. Et c'est à ce moment-là que dans toutes les maternités de la République démocratique du Congo, nous devons suivre le partogramme. C'est un instrument que nous suivons, que toutes les sages-femmes savent utiliser. Et c'est un instrument qui nous aide à identifier un problème pendant le travail d'accouchement. Ça nous donne, ça nous alerte. Ça nous dit que ce travail est déjà prolongé. Donc, mm. il faut agir.
Oui.
Il faut faire une césarienne. Il faut transférer la dame dans un hôpital général de référence pour les soins appropriés. Donc, tout ça, nous devons sensibiliser les sages-femmes pour transférer les femmes au moment opportun.
Oui, et Godet a voulu également savoir si les cours ou si dans les enseignements, dans les facultés de médecine et de sciences infirmières, si les enseignements liés à la fistule sont également dispensés.
Les cours... Il y a un chapitre qui parle de fistules, mais curieusement, on n'insiste pas là-dessus pour que tous nos médecins soient à mesure de réparer la fistule, comme on le fait pour des césariennes. Donc, à la fin de ses études, chaque médecin de la République démocratique du Congo est à mesure de faire une césarienne. Mais pour la fistule, c'est le contraire. Donc, on n'insiste pas trop. Et avec notre équipe, nous sommes en train de former et les gynécologues et les médecins généralistes pour prévenir la fistule et aussi pour prendre à charge la fistule obstétricale.
Fistule obstétricale, quels sont les facteurs de risque et comment se fait la prise en charge médicale? Nous en parlons dans cette première partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions au numéro 081-711-50-01.
Okapi Service, à votre service.
Monsieur Samuel, vous êtes à Arou, dans la province de l'Ituri. Bonjour.
De l'Ituri. Dans la province de l'Ituri.
Oui, allez-y, on vous donne la parole.
Ok. Donc moi, je veux savoir si cette maladie, si la femme est dans ces cas, est-ce que ça ne peut pas causer de ne pas régler ou soit... Hein? Dans ces signes, est-ce qu'elle ne doit pas régler ou soit elle peut même régler? Donc, c'est ma préoccupation.
Merci beaucoup, docteur Lucien. Comment répondez-vous à Samuel? Est-ce que la fistule peut déranger les cycles menstruels de la femme?
Exactement. La fistule peut perturber les cycles menstruels. Parce que certaines femmes, elles peuvent régler normalement et d'autres, elles n'ont plus de règles. Elles ont l'aménorrhée pendant la phase là de la fistule obstétricale parce que tout dépend de l'état de la femme. Si elle est stressée, parce que quand elle se voit mouillée avec des urines, elle est stressée, elle est rejetée par la communauté et son organisme ne peut pas fonctionner très
normalement.
Bien. Exact.
Mmh. Oui, mais est-ce que pouvez-vous nous parler de l'appui que vous recevez? Est-ce que les financements que vous avez sont à la hauteur des besoins sur terrain, docteur?
Exactement. Nous travaillons en collaboration directe avec nos partenaires. Et ils sont toujours très très sensibles parce que c'est la Fondation Fistule Internationale. Et ils ont des fonds à tout moment. Nous devons, dès que nous avons besoin de fonds pour soigner les femmes, la Fondation Fistule est toujours disponible pour disponibiliser les fonds. Mais actuellement, et des fois, on fait même 2 ou 3 semaines sans trouver des femmes à opérer. Il y a beaucoup de cas dans la communauté, mais les gens ne veulent pas venir pour se faire soigner. Et puis, c'est une opportunité parce que il y a quelqu'un qui a disponibilisé les moyens et il y a une équipe bien formée et bien qualifiée, mais les gens hésitent pour se faire soigner. Alors, nous faisons un appel à toute la population de prendre ce courage-là si venir se faire soigner gratuitement parce que c'est pour leur bien.
Oui, mais on se fait soigner si on a de l'information. Est-ce que vous faites également des sensibilisations de proximité? Vous allez dans les ménages pour sensibiliser les femmes, la population sur cette anomalie occasionnée qui arrive lors de l'accouchement?
Et ce que nous faisons, nous utilisons les réseaux sociaux, les médias, et aussi nous distribuons des communiqués dans des églises, et aussi dans des centres de santé. Et nous pensons que, avec votre appui, nous allons pouvoir
atteindre
un grand nombre de la population.
Oui, nous allons cette fois-ci, mais docteur Lucien, permettez-nous, nous allons cette fois-ci à Kisangani, pour donner la parole à monsieur Pascal, à qui nous disons bonjour.
Oui. Voici ma question.
Oui, allez-y.
Oui, je voulais demander au docteur, existe-t-il des fistules sexuelles? Et voici ma deuxième préoccupation.
Je n'ai pas compris le fond de votre question. Excusez-moi, monsieur Pascal, vous allez parler de fistules sexuelles. Pouvez-vous formuler cela autrement pour que je comprenne?
Je voulais demander au docteur, je voulais savoir, existe-t-il des fistules sexuelles? Et voici ma deuxième question. Le docteur vient de nous dire qu'ils ont été déformés déjà dans les différents hôpitaux. Maintenant, ils ont été déformés leur personnel, ou soit ils ont été déformés dans chaque hôpital les accoucheuses, parce que ce sont eux qui savent comment orienter une femme au moment de l'accouchement pour éviter tous ces fistules-là. Et cependant, la CPN est compétente d'éduquer aux femmes comment elles doivent se comporter pendant l'accouchement. Mais lorsqu'il est en train de parler qu'ils sont en train de former leur personnel, là, nous continuerons toujours à avoir des cas de fistules dans notre pays. Ok, merci beaucoup. C'est ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, M. Pascal. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Docteur Lucien, à vous la parole. Comment répondez-vous à M. Pascal?
Par rapport aux fistules sexuelles, merci beaucoup, M. Pascal, pour la question. Il y a ce que nous appelons des fistules traumatiques. Et parmi les fistules traumatiques, nous avons des fistules qui arrivent à cas de violences
sexuelles.
Pendant les violences sexuelles. Surtout quand on utilise des objets, les objets tranchants, puis les sticks de bois qu'on introduit dans les organes génitaux. C'est à ce moment-là qu'on cause des fistules. Et peut y arriver qu'à cas de viol, une série d'hommes qui vont violer une femme et qui vont causer une fistule suite au traumatisme, bien sûr. Donc, ce sont des fistules traumatiques et ça existe.
Et vous recevez aussi des cas dans ce sens, docteur?
Pour être sincère, par rapport à mon expérience, je n'ai jamais eu de cas dit à la violence sexuelle. Donc, à plus de 80%, tous mes cas sont des fistules obstétricales et d'autres sont des fistules iatrogéniques. Et donc, après une césarienne et après une hystérectomie.
Okay.
Mais pour des cas de violences sexuelles, jusque-là, je n'ai pas encore de cas. Mais il y a quand même une recherche qui était publiée à Panzi, où on avait trouvé 4% des cas de fistules liées aux violences sexuelles. Donc, le pourcentage est là, donc il y a des cas qui existent. Mais chez nous, dans nos données, il n'y a pas encore de cas jusque-là.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée, docteur, sur les moyens de prévention? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie que la femme doit observer avant la délivrance et pendant la délivrance, et tout comme les personnels soignants?
Exactement. Dans le cadre de la prévention, il faut suivre ce que nous appelons la CPN, la consultation prénatale. Il y a toujours des rendez-vous qu'on donne aux femmes enceintes pour consulter les centres hospitaliers avant l'accouchement. Et ça permet à bien préparer son accouchement, et s'il y a des risques qu'on peut prévenir pendant l'accouchement, c'est à ce moment-là que le personnel soignant peut détecter. Mais il y a des femmes qui négligent la CPM.
Ces rendez-vous, oui.
Elle reste à la maison jusqu'au jour de l'accouchement et elle arrive à l'hôpital maintenant avec retard et toutes les complications. Il y a d'autres femmes qui accouchent à la maison, il y a d'autres qui accouchent à court de route. Donc il faut toujours prévenir, se préparer pour un accouchement sans problème, pour éviter toutes ces complications. Et aussi pour les personnels soignants, il faut bien utiliser les partogrammes. C'est un instrument qui est très nécessaire pour les sages-femmes. Et parfois, les sages-femmes négligent cet instrument et pourtant c'est très efficace sans montrer son efficacité. Et si on suit cet instrument-là, on prévient beaucoup de complications pendant l'accouchement.
J'ai failli oublier la sous-question de Monsieur Pascal qui a voulu savoir comment est-ce que vous procédez exactement dans la formation du personnel soignant. Est-ce que vous ciblez tous les hôpitaux, vous triez les personnels soignants pour la formation sur quelle base?
Exactement. Nous avons commencé par notre propre équipe. Comme je vous ai dit qu'on ne vient que de commencer le programme. Et l'équipe est déjà bien formée. Et maintenant, on a commencé à faire maintenant des descentes sur terrain dans différentes zones de santé. Récemment, on était à Kirumba.
Excusez-moi, je reviens à vous, docteur. Ouais. Qu'on donne la parole au dernier auditeur. Hein. Il appelle de Mandaka. Ouais. Il s'appelle Emmanuel. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi au docteur.
Bonjour.
Bienvenue dans Capi Service. Bon. Allez-y.
Je voudrais poser au docteur, je vis ici en Mbandaka, lorsque l'INFP a pris la charge pour ces femmes fistuleuses, il y a eu d'autres femmes qui ont subi deux ou trois fois l'intervention chirurgicale, mais ça n'a pas tenu. C'est là à cause de quoi que ça n'a pas tenu. Les autres, ça a réussi, mais pour les autres, deux, trois fois, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi ça?
Ok, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Mbandaka que vous intervenez. Docteur Lucien, allez-y. Comment répondez-vous à notre auditeur de Mbandaka, Monsieur Pascal?
Ok, merci beaucoup. Pour finir la question là de la formation, je disais que après nos équipes, nous on est en train maintenant de collaborer avec des médecins chefs de zone pour former les infirmiers titulaires d'abord et leur parler de la fistule obstétricale et de sa prise à charge et voir comment prévenir cette fistule. Récemment, on a été dans la zone de santé de Kaina, au nord Kivu. On a aussi formé dans la zone de santé de Butembo, zone de santé de Beni et même à la Sele, ici à Kinshasa. Donc, nous sommes en train d'y aller progressivement et puis, je pense bien que nous allons continuer à collaborer avec les médecins chefs de zone pour, dans le cadre de la formation.
Alors, Emmanuel, des cas d'échec dans les interventions chirurgicales.
Exactement. Donc, comme je vous ai dit, notre résultat, c'est à 92%. Donc, ça signifie que les 8%, ce sont des échecs. Donc, ce sont des cas qu'on devrait normalement refaire. Donc, la prise à charge de la fistule obstétricale n'est pas facile parce que ce sont des complications. Donc, vous êtes en train de soigner des complications.
Si des organes aussi sensibles, hein, très sensibles,
exact.
Mous et sensibles.
Alors là, il faut vraiment être très, très, très prudent parce que s'il y a l'échec pour la première fois, ça signifie qu'il y aura encore l'échec pour la troisième ou quatrième fois. Parce qu'il y a des femmes qu'on opère même jusqu'à 10 pour qu'elles soient sèches. Donc, plus il y a des échecs, plus
l'intervention devient compliquée.
Très complexe.
Oui.
Alors, c'est dans ce sens-là que le taux d'échec n'est pas vraiment très élevé, mais il y en a quand même. Alors que notre ami comprenne et encourage cette femme-là de revenir à l'hôpital et je pense bien que ça pourra aller.
Docteur Lucien, on est presque à la fin de cet entretien. Vous avez un message de particulier à lancer à l'intention de la population qui nous suit?
C'est juste un message de sensibilisation. J'essaie de rappeler à toute la population que la prise à charge est gratuite et s'il y a des cas de fistule obstétricale dans la communauté, il faut bien les orienter et nous contacter directement. Nous sommes toujours disponibles pour les aider.
Est-ce que un numéro de contact, le téléphone ou une adresse mail par laquelle les gens peuvent vous appeler?
À Butembo, c'est le 09 76 36 59 99. Ça, c'est pour la ville de Butembo ou la province du Nord Kivu.
Épelez à nouveau le numéro.
09 76 36 59 99.
Et ici à Kinshasa?
Ici à Kinshasa, c'est le 09 10 20 88 92.
Un courriel par lequel on peut vous écrire?
Et l'adresse email de FISPRO, fispro@fispro-rdc.org.
Docteur Lucien Wassi Lusenge, nous rappelons que vous êtes directeur du programme de FISTIL de la RDC. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service pour débattre de ces sujets. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois, à la prochaine occasion.
C'est moi qui vous remercie.